Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
LOU, la Fédération Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, revient sur l'autorisation d'un tir dérogatoire sur un loup abattu dans la Drôme. CEP résistant, le croisement de cépages, autant d'efforts de recherche auprès des viticulteurs. Et enfin Martine Mérieux, céramiste, le mariage du grès et de la porcelaine à Jarniou.
Calade, le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé lundi qu'il était temps de désamorcer la crise entre la Russie et l'Occident autour de l'Ukraine. Sur le terrain et via la diplomatie, en respectant la charte des Nations Unies interdisant le recours aux menaces, article de l'AFP du 15 février dernier. Se disant profondément préoccupé par la hausse des tensions et de la spéculation sur un possible conflit militaire en Europe, Antonio Guterres, qui s'était entretenu plus tôt avec les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne, a appelé à rejeter toute rhétorique incendiaire lors d'une déclaration devant des médias au siège de l'ONU. « Nous ne pouvons tout simplement pas accepter, ne serait-ce que la possibilité d'une confrontation aussi désastreuse », a-t-il dit, soulignant qu'il n'y avait pas d'alternative à la diplomatie. Antonio Guterres, qui refusait toute question, a réclamé à la Russie, sans la nommer, le plein respect de la Charte des Nations Unies qui impose à ses membres de s'abstenir de menacer ou d'utiliser la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État. L'ONU compte en Ukraine 1661 employés, dont 1441 de nationalité ukrainienne et 220 de nationalité étrangère. Il n'y a pas de plan d'évacuation ou de relocalisation du personnel de l'ONU, a précisé le porte-parole, alors que plusieurs pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine par crainte d'une invasion russe. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir cette semaine une réunion annuelle sur l'Ukraine et l'application des accords de Minsk conclus en 2014 et 2015 pour pacifier l'Est de ce pays. Dois-je répéter ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Loup abattu à Cresse dans la Drôme. Le retour sur la dérogation de tir accordée avec la FNEORA, la Fédération Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Conscient du drame que constitue pour un éleveur la perte accidentelle de brebis par le loup dans l'affaire du loup abattu, la FNEORA déplore la décision du représentant de l'État à autoriser le tir sur un troupeau qui ne possédait aucune protection, comme l'indique le règlement. Les explications par téléphone avec Jérôme Hérome, co-référent loup FNEORA.
Ce qui s'est passé, il y a un loup qui a été abattu. Ça, c'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Mais notre réaction vient du fait que ce loup a été abattu après une autorisation préfectorale, bien sûr, sans qu'il y ait des dispositifs de protection qui soit en place. Pour qu'un tir soit possible, accepté, si vous voulez, il y a une condition, c'est que les éleveurs ou l'éleveur concerné doit avoir mis en place un dispositif de protection, ce qui n'est pas le cas. En ce qui concerne cet élevage, le dispositif de protection a été mis juste un petit moment avant pour accréditer le fait que le troupeau était protégé, ce qui ne l'est pas. Or, les services de l'État sont au courant de ça. C'est en ça que ce tir-là est extrêmement dommageable, parce que finalement, en substance, si vous voulez, il fait dire à tous les éleveurs, et ils sont nombreux, qui prennent des mesures de protection efficaces sur la protection de leur troupeau, « Ben, messieurs, pourquoi vous vous cassez tant la tête? Vous êtes un peu couillons. Regardez ici, on protège rien et on tue les loups. » C'est ce qui motive la réaction qui est la nôtre.
La complaisance, en quelque sorte, d'une institution?
Oui, c'est j'ai pas réfléchi en ces termes, mais vous avez raison. C'est une forme de complaisance. C'est qu'un représentant de l'État à ce niveau-là puisse s'arroger le droit de passer outre la loi. C'est pas une loi, c'est une réglementation.
La réglementation, très bien. Comment est-ce possible qu'un jour, effectivement, entre éleveurs, le loup puisse s'accorder en quelque sorte?
Il y a quand même de plus en plus d'éleveurs qui mettent en place des mesures de protection efficaces. Ça, c'est un élément que l'on tient à souligner. De la même façon, et je tiens à le dire, De la même façon qu'à partir du moment où des moyens de protection efficaces sont mis en place et qu'en dépit de la présence de ces moyens de protection, il y a quand même une prédation d'un loup, on n'est pas opposé à ce que ce loup-là, celui-là, soit éliminé. Au-delà de ce point-là, pour répondre à votre question de façon complète, oui, la cohabitation éleveur-loup est difficile, incontestablement, mais elle s'améliore d'autant mieux et d'autant plus vite que les mesures de protection sont mises en place.
La solidarité financière aux éleveurs existe dans la transition de l'élevage vis-à-vis des grands prédateurs. La cohabitation entre éleveurs et loups sera-t-elle possible ?
Oui, mais cette aide est légitime. Et cette aide qui est affectée, attribuée aux éleveurs qui font l'objet d'une prédation, elle est affectée, y compris quand on n'arrive pas, et c'est dans 80% des cas, à faire la différence entre une prédation de loup et une prédation d'un chien. Dans ce cas-là, c'est considéré comme prédation, le terme c'est prédation d'un grand canidé, et donc en conséquence de quoi, puisqu'on ne sait pas faire la différence dans ce cas précis entre un grand canidé et un loup, l'indemnité est accordée à l'éleveur.
Il y a des chiens sauvages également ?
Non,
ou c'est des chiens domestiqués ?
Ce n'est pas des chiens sauvages, c'est des chiens...
Domestiqués ?
Oui, de promenade, oui. N'importe quel chien d'une certaine taille peut avoir à un moment donné un comportement prédateur.
C'était Jérôme Hérom, co-référent loup à la Fédération Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du loup abattu à Crest dans la Drôme entre le 8 et 9 février dernier. Cep résistant, croisement de cépages, autant d'efforts de recherche depuis les années 70 et d'encouragement aux viticulteurs à planter des vignes résistantes pour permettre de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Étudier le comportement des variétés et la durabilité de la résistance de ces végétaux, Jean-Michel Despierres est chargé de matériel végétal pour la Sicarex. Nous abordons le sujet avec celui-ci.
Il y a différents niveaux de sélection. Donc on sélectionne déjà à l'intérieur de notre cépage qui est le gamay. Donc pour ça, on a un conservatoire où on a à peu près 1000 gamets différents. Et à l'intérieur de ces 1000, on a une variabilité, ce qui nous permet de trouver des sélections plus tardives, par exemple par rapport au réchauffement climatique, ou qui vont conserver plus d'acidité dans les vins, ou qui auront moins de degrés à la vendange, puisque ça évite aussi de faire des vins trop alcoolisés, qui peut être rebuté par le consommateur. Après, on a les collections de cépages. C'est-à-dire que là, on va aller chercher des cépages plus vignobles plus au sud. Ça peut être des côtes du Rhône, ça peut être des vignobles du Languedoc-Roussillon, qu'on va remonter chez nous et qu'on va tester, donc aussi bien en cépage blanc qu'en cépage rouge, pour voir le type de vin, leur résistance par rapport à notre climat à nous. Est-ce qu'ils ne sont pas trop tardifs quand même? Parce que s'ils ne mûrissent pas, ce n'est pas la peine. Donc on va les tester d'un point de vue viticole et puis après on va jusqu'au vin pour voir la qualité des vins qu'ils produisent et si c'est compatible avec notre gamay qui est notre cépage d'origine, par exemple.
Pour appréhender effectivement le réchauffement climatique, du coup, si vous allez chercher des cépages qui sont peut-être plus exposés aujourd'hui,
voilà.
Plus au sud.
Donc soit on va chercher des cépages qui existent dans des vignobles plus au sud, soit on va créer ces cépages. Donc quand on crée un cépage, on prend un papa et une maman qu'on va hybrider, donc castration sur les inflorescences. On amène le pollen d'une autre variété. Et donc là, on fait de la création variétale. Donc la première phase de création variétale, à l'époque, on ne parlait pas de résistance. On ne travaillait pas du tout le côté résistance. C'était plutôt le côté complémentaire à notre cépage gamay. Donc c'est des demandes qui datent des années 1970 de la part de la profession beaujolaise à l'INRA de Colmar pour créer des nouveaux cépages complémentaires au gamay. Ce programme-là a abouti à 4 cépages. Donc le gamino, qui est le croisement gamay-pinot, qu'on parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a d'autres cépages comme le picarla qui nous intéresse beaucoup, de fait de son époque de débourrement, donc la pousse au printemps qui est retardée, donc une sensibilité moindre au gelé de printemps. Il a une période de végétatif plus courte, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il pousse plus tard qu'on va le vendanger plus tard. Donc ça permet aussi de réduire les traitements puisqu'on a moins de phases de sensibilité dans sa phase de pousse active. Donc c'est là où on fait tous les traitements sur la vigne. Donc si on réduit cette période-là, on fait moins de traitements aussi.
On garde un goût plus naturel, bien évidemment.
Voilà. Et la troisième phase de sélection, c'est là où on travaille le côté résistance aux maladies cryptogamiques. Donc essentiellement mildiou et oïdium, Et là, donc, on travaille toujours avec l'INRA. Donc, on va chercher, en fait, nos cépages, c'est des Vitis vinifera. Et on va chercher d'autres genres Vitis qui ont toujours vécu avec le Midiou et l'Odium, donc qui ont présenté des caractères, des gènes de résistance. Puisque nous, le Midiou et l'Odium sont apparus en France, ont été introduits depuis l'Amérique à la fin du 19e siècle, donc c'est pas très vieux. Donc, nos cépages qu'on a chez nous, on est obligé de les traiter parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer de la résistance. Par contre, il y a des variétés hautes de Vitis qui, eux, ont développé de la résistance. Donc, on va les chercher toujours par hybridation. Hein, on ne fait pas de l'OGM. Hein, on va toujours faire des croisements entre cépages. On va chercher dans ces hautes Vitis des gènes de résistance au Midiou et à l'Odium. Et ce qui nous donne maintenant des nouvelles variétés. Donc, 4 ont été inscrites en 2018 et qui nous donnent des variétés où on traite pratiquement plus ni le Midiou ni l'Odium. Donc, c'est quand même comme en 2021, ça représente 7 à 8 traitements par an. Donc là, on peut passer pratiquement à zéro, voire un traitement.
La résistance, effectivement, au pied de la vigne et abandonner petit à petit, effectivement, les intrants, en quelque sorte. Voilà. Je voulais juste vous dire, évidemment, c'est de l'expérimentation et qu'aujourd'hui, on ne peut pas en professionnaliser. Alors, quand est-ce qu'on les professionnalise?
Si, on peut les professionnaliser, sauf que pas en vignoble d'appellation. Au jour d'aujourd'hui, en vin de France, on peut commercialiser les 4 premiers cépages qu'on a inscrits, enfin nouvelles variétés résistantes qu'on a inscrits en 2018. Donc qui sont pour le blanc Floréal et Voltis, et pour le rouge Vidocq et Artaban. Donc ceux-là, vous pouvez au jour d'aujourd'hui les planter en vin de France et commercialiser des vins en vin de France, en revendiquant même le nom du cépage.
Donc en vin de France, dans le Beaujolais.
Dans le Beaujolais.
Très bien.
Les vins de France, vous pouvez les produire n'importe où.
C'était Jean-Pierre Despierres, chargé matériel végétal pour la Sicarex, dans le cadre de recherche de cèpes résistants, entre autres. Dépêchez-vous, l'artiste céramiste Martine Mérieux aime croiser les regards d'artistes plasticiens dans son atelier-galerie à Jarnioux. Elle vous invite à sa toute dernière exposition en compagnie des artistes Pascal Pinault, céramiste, et Laurent Fléchier, photographe musicien, jusqu'au 20 février. On l'écoute.
Alors Martine Mérieux, c'est le mariage du grès et de la porcelaine pour vous.
Depuis des années, je fais toujours de la porcelaine avec un travail d'empreinte et d'association. Et je monte, là j'ai des colonnes, on voit bien le travail comme ça, avec ce travail de matière et de construction. En fait, c'est comme une forme d'écriture pour moi. Depuis quelque temps, je travaille le grès noir avec le contraste porcelaine, voire même mélangé avec aussi des rajouts, des choses comme ça, parce que le grès noir m'apporte le travail de matière un peu plus importante que celui de la porcelaine, qui est un travail toujours un peu plus lisse, même si je travaille l'empreinte. Et voilà, donc je suis là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est que quand on a une identité depuis des années sur un travail, c'est compliqué de trouver le regard des autres quand on change. Là, je n'ai pas changé de matière, c'est toujours de la terre, mais ça interpelle toujours beaucoup. Alors, il y en a qui aiment beaucoup, puis il y en a d'autres qui disent oh, « Pourquoi tu as lâché la porcelaine ?» Et en fait, je n'ai pas lâché la porcelaine, mais...
Vous avez à un moment donné besoin de
changer, oui, parce que la porcelaine demande énormément de rigueur de travail, donc j'avais envie de changer un peu, quoi. Voilà.
Des pièces nouvelles, alors, donc, du coup, parce que
oui,
c'est un travail
là,
qui est
récent. Là, ça, c'est nouveau aussi. C'est des pièces que j'avais exposées qui m'avaient été demandées au hangar 717. Là. Et puis, j'ai aussi eu la chance de travailler avec un sculpteur sur bois où j'ai des pièces là-bas. Toujours au hasard des rencontres. Parce que je fais partie d'un groupe aussi qui s'appelle Atelier Révélé. Maintenant, on est passé en biennale, propose un circuit sur le Beaujolais. On ouvre nos ateliers et on travaille avec d'autres artistes.
Et de nombreux artistes,
voilà.
Et
c'est ça qui est intéressant. Le concept de ce groupe est intéressant. Sinon, si on ouvrait pour ouvrir nos ateliers comme on fait d'habitude, l'intérêt, c'est vraiment l'accueil de quelqu'un d'autre et le travail qu'on peut faire avec cette personne.
Ne manquez pas l'exposition à l'atelier galerie Martine Mérieux à Jarnioux jusqu'au 20 février prochain. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.